about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Julien Bourdet, Nadège Antonini et Pierre Monteil. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, Charlotte Garçon, Corinne Rondeau et Muriel Jaudet. À notre affiche, Double Vie d'Olivia Sayas, Glace de M. Night Shyamalan, Malé en son exil de Denis Garbrandt, et puis il y aura un coup de cœur ce soir signé Charlotte Garçon pour le livre d'Emeraude Nicolas Pascal Augier, ma sœur, aux éditions Filigrane. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour aller voir Bérénice, mise en scène par Isabelle Lafond. Des places à gagner pour vendredi prochain, 25 janvier à 20h, au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Et nous ouvrons cette dispute avec le nouveau film d'Olivia Sayas, Double Vie, qui succède donc à Personal Shopper et Sils Maria. C'est, sauf erreur, le 17e film du cinéaste depuis l'inaugural Désordre, sorti en 1986. Depuis, Sayas s'est essayé souvent avec bonheur à différents registres, ce qui fait de lui quand même, je tiens à le dire, un cinéaste précieux dans notre cinématographie. Avec Double Vie, Sayas semble vouloir faire coup double avec une plongée dans le monde de l'édition. Germano-Pratin, confronté aux nouvelles pratiques culturelles liées à l'apparition du numérique, essaye de parler un peu comme dans le film. Mais c'est aussi une comédie sentimentale avec beaucoup de chassés-croisés amoureux parmi ses personnages.
Excuse-moi, je suis en retard.
T'es jamais à l'heure.
Ouais, je t'ai un rendez-vous avec Laure.
C'est chaud, ça. Laure.
Elle s'occupe du développement de l'édition numérique. Asseyez-vous.
J'ai toujours l'impression que dans le monde de l'édition, le numérique, c'est un peu vu comme le diable.
Vous êtes là pour bousculer un peu les habitudes.
Jusqu'où ?
Ah bah ça, c'est à vous de me le dire.
J'ai vu Alain hier midi.
D'accord.
Comment ça va ?
Ça va un peu, il a l'air en forme.
Ah, je suis contente.
Très en forme.
Super.
Pour le manuscrit, donc...
Non, je ne publierai pas, non. Je pensais que t'avais compris.
Ça me ferait plaisir de dîner avec eux.
Enfin, je te dis que t'as refusé mon manuscrit.
Qu'est-ce que j'y peux, moi ? Allez, salut.
Qu'est-ce que vous pensez de la polémique qui fait rage autour de votre livre ?
La question, c'est de savoir si les romanciers ont le droit de s'inspirer de personnes existantes.
C'est sûr qu'Alain n'a pas lu entre les lignes.
Tu crois que c'est quelque chose ?
Je crois que c'est une façon de se venger.
Moi, j'aime pas la façon dont il parle des femmes.
Qu'est-ce qui te gêne ?
Il la traite comme un objet.
Ouais, c'est peut-être ça qui lui plaît.
Les ventes s'effondrent. C'est dingue, les gens lisent des livres sur smartphone.
Moi, je lis pas sur tablette.
Parce que c'est pas ton époque.
Tu t'emmerdes.
Tu me trompes, Léonard.
Bah, pourquoi tu dis ça ?
Dans un couple, le désir, c'est pas le début, la fin de tout.
Je préfère vivre dans l'hypocrisie.
Bah, c'est pas l'hypocrisie, on est mariés depuis 20 ans.
Toi, tu travailles sur quelque chose ?
Bon, j'ai pas trop envie d'en parler.
Mais ça avance ?
Oh, oui, oui, oui. Bien, 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 bien.
On n'en saura pas plus.
Non.
Non.
J'aime beaucoup votre petit classeur, Charlotte Garçon. Je savais pas qu'il y avait des modèles aussi petits, verts, mais avec quand même des... Comment on appelle ça déjà ?
Des anneaux.
Des anneaux, merci. C'est très joli.
Je sens que c'est une transition pour parler des écrivains.
Mais il y a de l'écrit, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du noir...
Voilà.
Comment vous choisissez les couleurs, en fait, Charlotte ?
Voilà, si je vous répondais, peut-être que je rentrerais dans cet univers de création, malgré tout, que ce film Double Vie n'aborde pas. Vous aurez remarqué que la question de l'écriture est très peu...
Pourquoi il est question d'écriture ? Non, il n'est pas question
d'écriture, question
d'industrie culturelle.
Oui, exactement.
Allez, allons-y. Oui, éventuellement. Je me demandais comment vous différenciez, en fait. Pourquoi il y a des choses en rouge, des choses en vert, des choses en noir.
Il y a une chose qui, au départ, m'avait réjoui, c'est qu'on s'embarque, a priori, dans une comédie, ce qui n'est pas si fréquent chez Olivia Sayas. La dernière fois, d'ailleurs, j'en avais parlé ici, c'était plutôt une ambiance de film de fantômes, avec des ectoplasmes et des choses très...
Ça, c'était Personal Shopper.
Et de thriller. malheureusement, il y a deux pans. Il me semble que le film a deux pans. Le premier, qui serait, disons, un premier plan, une sorte de rideau, et qui est cette discussion qu'on entend, sociologisante, sur un milieu, un petit milieu, voilà, caractérisé par un entre-soi. Vous savez bien ce dont on nous accuse aussi, nous, les critiques parisiens. Et malheureusement, cette satire est quand même, je trouve, extrêmement mal écrite. Moi, c'est ce qui m'a frappée. C'est-à-dire qu'on l'entend assez peu dans une bande-annonce parce que c'est très haché. Mais le principal problème pour moi, déjà, dans cette étude-là, de ce milieu, c'est que les dialogues sont écrits d'une seule main, par une même personne. C'est-à-dire que les différents personnages parlent, mais au fond, c'est la même dissertation qu'on entend. Et donc ça, c'est un problème. Alors ça pourrait créer un effet de distanciation intéressant. Il me semble qu'on reste malgré tout dans un régime réaliste. Donc ça crée... Il ne s'agit pas de problème avec les acteurs, il s'agit vraiment d'un problème d'écriture du dialogue, première chose. Mais tout de même, assez vite, au cours du film... les enjeux qui ont l'air d'être des gros enjeux, de même que Assayas a déjà traité... Alors, il y a toujours une technologie dans un film d'Assayas. Dans Demon Lover, c'était déjà le cas il y a déjà beaucoup d'années. Le dernier, il s'agissait de SMS. Le SMS prenait une place importante. Et on a toujours l'impression qu'il court après quelque chose qui est quand même déjà en cours depuis assez longtemps. Donc là, la dématérialisation du livre, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement neuf. Mais en tout cas, de toute façon, assez vite, j'ai l'impression que le film jette tous ses enjeux par terre pour finalement tirer le rideau et ouvrir sur, disons, une sorte de vaudeville assez classique à la française. Plus ou moins drôle selon le brio des acteurs, selon les situations. Plutôt plus drôle que la partie satirique du début. Mais je suis quand même sortie de tout ça avec l'impression d'un grand mépris, au fond, moins pour ces personnages que pour le spectateur. Parce que ce traitement très superficiel, quand même, cette critique très peu fouillée, qui ouvre en fait sur des histoires de coucherie, elle-même résolue, on va pas dire comment à la fin, mais par... le surgissement du réel dans sa forme la plus convenue, biologique, voilà, m'a laissé vraiment très perplexe, voire en colère.
Bon, en colère. Vous avez dit dissertation, j'aurais plutôt dit exposé, mais j'y reviendrai. Muriel Jodé, vous avez un blâme aujourd'hui.
Ah oui, non, mais c'est...
Parce que vous sortez du film seulement.
Oui.
Vous l'avez vu...
Voilà, je tremble encore.
Quelques instants avant l'émission, ce qui est très mal. Où est le filtre critique?
Il y en a
la
eu,
nuit
il y en a eu. Dans le métro, il y en a eu un.
D'accord.
Mais ça me...
Mais attention, ne renouvelez pas.
D'accord, promis, pardon. Mais heureusement, j'avais sur moi mon carnet. Donc j'ai pu jouer au bingo Assayas, c'est-à-dire noter des petites phrases, oui, parce que j'avais qu'un crayon papier, noter des phrases. Il faut imaginer des personnages qui discutent au bistrot ou dans des grands appartements. Et donc il y a ces phrases, ces fulgurances. Hein. On vit dans un monde qui ne respecte que l'argent et le pouvoir. C'est très beau. Les textos sont les haïkus d'aujourd'hui. Ou encore, le numérique permet une démocratisation de l'accès à la culture. Alors, je me suis dit, c'est un discours de Fleur Pellerin, ou alors, le film n'a pas commencé, et c'est un spot publicitaire du ministère de la Culture qui promeut l'audiobook ou voilà, le papier. Et en fait, c'était vraiment le film d'Assayas, et c'est vraiment terrible, c'est-à-dire que je comprends Charlotte, c'est plus que de la colère, moi je suis vraiment scandalisée par ce film, et en général totalement indifférente et plutôt énervée contre le cinéma d'Assayas, qui cherche perpétuellement à faire des films contemporains, des films à la mode, et donc il y a tous les signes extérieurs, tous les effets de mode voilà, courants, les smartphones, les tablettes, il y en a beaucoup dans le film, mais tout ça aboutit à une sorte de cinéma gentrifié, de cinéma extrêmement bourgeois, hein, c'est-à-dire que les appartements sont de plus en plus grands de film en film, et de cinéma complètement ringard. Et surtout, là, on comprend ce qu'il veut faire, c'est-à-dire que c'est un vaudeville modernisé, sauf que, et donc Assayas dit, bon, là, on va un peu arrêter le cinéma de genre, l'épouvante, tout ça, on va faire quelque chose de très simple, on va filmer la parole. Et ce qu'il y a d'immoral dans ce film, c'est que, qu'est-ce qu'il filme comme parole? Il filme des gens qui parle une sorte de novlangue de conseiller marketing, une langue complètement morte, et je trouve ça totalement immoral qu'un cinéaste aussi intelligent, aussi cultivé, c'est quelqu'un de très intelligent, Assayas, moi j'adore l'écouter, l'autre jour je l'ai vu dans un documentaire sur Hitchcock, c'est quelqu'un de passionnant, comment un cinéaste comme ça peut s'intéresser à cette langue-là, comment un cinéaste comme ça peut filmer ça pendant 1h40, et surtout, comment un cinéaste aussi bien entouré, à un moment, il n'y a personne autour de lui qui lui dit, là Olivier quand même, c'est bon, ça a 20 ans de retard ton film, il n'y a personne qui lui dit, c'est-à-dire que l'auteur, maintenant, c'est quelqu'un qui travaille en toute impunité et qui peut faire un film que moi, je trouve vraiment scandaleux. Voilà.
Bien. Après ce voilà qui conclut, Corinne Rondeau sur Double Vie d'Olivier Assayas.
Alors, comme ça s'appelle La Dispute, je vais pas enfoncer ce film qu'on peut enfoncer facilement. Je pense que Assayas, il est très intelligent, c'est sûr, Muriel. Mais je pense qu'il n'évite pas non plus le monde dans lequel il vit. Et effectivement, il ne filme pas la parole. Il fait de l'exposé, il fait du commentaire. Et on n'a pas que des haïkus, hein. On a aussi le contre-pied chaque fois. Il y a thèse, antithèse. Bon. Voilà. Donc moi, je trouve que Assayas, voilà, il est juste à sa place, de l'entre-soi, comme on peut le reconnaître partout ailleurs. Et je pense qu'il faut aussi admettre que parfois, on fait nous-mêmes de l'entre-soi. Donc ce n'est pas non plus un drame. Mais bon, ce film est d'un ennui profond, mais je pense aussi que nous vivons une époque de culture d'un ennui profond. Je veux dire, donc ils le prennent du côté dont on va commenter le temps que nous vivons dans une certaine caste qui s'appelle les bobos. Moi, je trouve qu'il est assez juste, hein. Moi, j'ai pas trouvé que c'était trop de la fiction. Je trouvais que c'était même très réel, indépendamment de la bio, logie à la fin qui apparaît. Non, bah, voilà, moi je trouve que Assayas, d'ailleurs il le dit, l'autofiction est finie, mais son film aussi est fini. Je veux dire, il est has-been, ce film est has-been, mais on vit une époque has-been. Alors je veux pas faire de lui le type qui a trouvé la solution, je pense qu'il a pas trouvé, hein. Mais c'est juste pour essayer de rééquilibrer le discours. Et moi je crois qu'en fait il fait pas un film sur la parole, ou les prises de parti pris, les fortes paroles, ou le jeu des acteurs aurait pu s'exprimer. Mais c'est un film sur le langage. C'est le langage d'aujourd'hui. Parler de marketing, et je suis d'accord, évidemment, entre ce qu'a dit Charlotte et ce que vous dites, Muriel. Je suis absolument en accord à ce que vous dites. Mais je trouve qu'il a mis le pied dans ce qui est aussi beaucoup de l'ordre du commentaire. Aujourd'hui, on ne fait que du commentaire. Il n'y a pas de création, d'ailleurs. Le film relève, en fait, du passage à la moulinette, du désir et de la création. Autrement dit, effectivement, quand il n'y a plus de création, puisqu'il n'y a que des écrivains qui sont juste en train de copier ce qu'ils... ils écrivent ce qu'ils vivent, grosso modo, sans distinction qui leur permettrait, grâce, je dirais, à un prisme d'écrivain, de l'écriture, de faire autre chose. Ben voilà, Assayas ne met qu'à plat la platitude absolue et pestile ancienne de notre culture actuelle. Mais même... Et par contre, je ne sais pas s'il s'en moque. Parce que le problème de ce qui est dit de cette soi-disant comédie, c'est que moi, de tout ce que j'ai dit, je n'en ai pas ri une seconde. Ce qui est quand même assez effrayant.
C'est vrai que c'est ce que j'ai un peu vécu pendant la projection du film. C'est-à-dire que je me pinçais et je me demandais effectivement s'il fallait prendre cela comme une farce, comme une satire, ou s'il fallait prendre en premier degré. Si on le prend en premier degré, on entend quand même un tissu d'ineptie, pas toujours très juste non plus, sur l'état, sur les pratiques culturelles contemporaines, pour aller vite. Mais pour essayer de contrebalancer aussi, vous rejoindre Corinne Rondeau, je pensais à ce vieux livre, pour dire que la chose est datée, de Gilles Libovetsky, qui s'appelle « L'ère du vide ». Ça fait bien 30 ans que ce livre-là est sorti, et que peut-être ce film-là, finalement, d'Olivier Assayas, nous montre la vacuité du langage contemporain dans ce type de sphère. Bon, je force un peu le trait pour essayer de lui trouver, mais j'ai quand même un doute quand même, parce que c'est vrai que quand je parlais d'exposé tout à l'heure, c'est vraiment ça, mais c'est pas possible, c'est un exposé qui d'abord date, dont les constats sont plus ceux d'aujourd'hui. Alors j'ai lu depuis quelques entretiens d'Olivier Assayas, ce que je fais rarement, mais là j'avais envie de savoir quand même ce qu'il disait de son propre film. Alors lui, il revendique le fait que ce dont il parle est déjà daté, que effectivement il s'agit pas d'être au plus près du contemporain. Mais alors, est-ce que c'est très malin? Est-ce que c'est une... Avec lui, je suis un peu perdu devant ce film. J'étais vraiment entre deux sentiments, effectivement, de, comment vous dites, un scandale, comme dirait Muriel Joudet, ou d'une forme de finesse un peu perverse. Charlotte Garçon.
Oui, alors l'aspect élément de langage des dialogues, au sens quasiment politique. Je pense qu'il est voulu, bien sûr. C'est-à-dire, cette novlangue, on peut dire que le film la critique en renvoyant dos à dos deux opinions contraires, disons pour ou contre le numérique, pour ou contre la persistance, l'importance, la sanctuarisation du livre papier. On voit bien que tout ça est de toute façon renvoyé dos à dos. C'est-à-dire que il y a à la limite un personnage, le personnage joué par Juliette Binoche, qui joue le rôle d'une actrice de série. Et qui méprise en fait son rôle à la télévision. Et moi, j'ai plus senti le point de vue, disons, de l'auteur là-dedans. C'est-à-dire, c'est ça le problème, d'avoir du mépris pour le matériau qu'on est en train de travailler dans son scénario et qui dit à la fin, qui dit qu'elle préfère finalement jouer Fed, mais il y a moins de public, etc. Et moi, j'ai senti ça, c'est-à-dire ce côté, ce mépris pour son propre matériau qui a un problème. Il y a tout de même un personnage joué par Nora Hamzaoui qui pourrait frayer une sorte de sortie. Et on voit bien qu'il cherche ça dans l'écriture, puisque c'est une attachée parlementaire qui, elle, travaille plus que tous les personnages réunis du film. Donc c'est quelqu'un de laborieux, véritablement, qui ne compte pas ses heures, qui prend des TGV tous les jours, etc. Et qui est absolument premier degré, justement, qui croit en l'action politique par opposition à tous ces discours. Mais là encore, tout ça, on voit bien, est quand même très schématique. Et surtout, comme par hasard, le film ne la suit jamais. Sur le terrain. C'est-à-dire, ce fameux terrain ça dont il est question, de toute façon, n'intéresse pas Olivier Assayas.
C'était quand même une révélation de voir Nora Hamzaoui, que je n'avais jamais vu jouer. J'ai trouvé absolument, qu'il y a un sens du timing, de la présence, un vrai génie de la chose comique et tragique, parce qu'elle peut basculer d'une émotion à une autre assez rapidement. Muriel Jodet ?
Oui, non, les acteurs sont très bons dans l'absolu, mais ils doivent jouer avec cette matière très ingrate. Encore une fois, oui, évidemment que c'est voulu par Assayas, mais il n'y a pas ce décalage, c'est-à-dire qu'il y a il y a le sujet et le regard qui coïncide avec son sujet. Il n'y a pas de recul. Moi, je ne sens pas le regard d'un cinéaste qui dit « attention, satire ». Il n'y a pas la satire. Et il y a des scènes vraiment très embarrassantes. Moi, celle qui me choque le plus, c'est quand c'est Christa Terré, actrice que j'aime beaucoup, qui a été découverte par LOL, et qui se retrouve, donc qui est l'amante de Guillaume Canet. À un moment, elle est à moitié à poil sur le lit et Guillaume Canet lui dit « ah oui, tu connais ce film de Bergman ?» Et il dit « ah, j'ai vu aucun Bergman avec les seins à l'air ». Mais on a l'impression d'être vraiment... C'est vraiment une scène, mais d'un sexisme éhonté. Surtout qu'en plus...
Elle représente le nouveau monde, celui du numérique, du changement.
Et donc, elle est lesbienne, parce que c'est le nouveau monde et que c'est le numérique.
Non, elle est bisexuelle.
Oui, enfin voilà, encore mieux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des... Non, mais c'est ça. C'est qu'il y a vraiment des raccourcis comme ça qui sont... Dans le film, numérique est égal bisexualité, est égal nouveauté. C'est ridicule. C'est-à-dire que c'est vraiment le point de vue d'un vieux, je ne parle pas de son âge, mais vraiment de sa mentalité, sur des jeunes femmes, sur les jeunes. Ça a toujours été comme ça. Dans Après-mai, c'était terrible. C'est quelqu'un qui a une vision des jeunes, qui baigne dans un jeunisme qui est déjà ringard, en fait. Et cette scène avec Christa Terré, avec les seins à l'air, qui dit « j'ai vu aucun Bergman », je trouve ça vraiment terrible. Et le film croule un peu sous les lieux communs et les remarques un peu sexistes, mais c'est par petites touches. Et je comprends pas. Franchement, je suis...
Corinne Rondeau, enfin, pour sur Double Vie d'Assayas.
Ouais, mais vous exagérez, Muriel, comme d'habitude.
Oui, c'est parce qu'elle sort du cinéma, c'est pour ça.
En fait, il cite ce qu'il y a dans le Bergman, c'est le temple vide. Donc, on y va avec les gros sabots. En fait, moi, quand je suis sortie du film, je me suis dit, mais il me prend pour une imbécile ou je suis passée à côté. Donc, c'est irrésolu, je pense. Mais je crois qu'on a tellement tendance à vouloir soit encenser, soit sulfater, qu'il a pris le milieu. C'est-à-dire, je mets un peu l'encéphalogramme assez plat, voyez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attraper. Là, il est malin. Parce que je pense qu'Assayas est malin. Il a voulu faire un truc en ricanant. Et donc, moi, je ne veux pas mettre les pieds dedans. Et je crois vraiment qu'il a choisi le fil d'un équilibre. Et je reprendrai votre mot de pervers. Parce que je crois que c'est juste parce que c'est un film sur la décadence, en fait. Parce que la décadence contemporaine, ça s'appelle le cynisme. C'est-à-dire, vous êtes en train, je rejoins ce que disait Charlotte tout à l'heure, vous êtes en train de critiquer la place elle-même dans laquelle vous vous inscrivez. Ce qu'on appelle aussi l'entre-soi. Parce que l'entre-soi, c'est aussi être du côté de « je défends comme j'attaque ». Et on le sait, la critique, c'est aussi ça. Et quand, d'ailleurs, il y a une scène comme ça, puisqu'en fait, le téléfilm dans lequel joue Juliette Binoche s'appelle « Collusion », et chaque fois, on lui dit « collision ». Et en fait, tout le film est là-dessus, c'est-à-dire changer la lettre. Et quand vous changez la lettre, ça peut être tout à fait autre chose. Et c'est rien, mais je pense qu'en fait, Assayas n'est juste que là-dessus. Et donc, au lieu de dire « je vais faire de la satire avec des gros traits marqués, me servir des acteurs pour qu'ils en mettent des tonnes », eh bien, il a choisi le très glissant. Il a mis en plus les acteurs dans leur propre rôle, à part Guillaume Canet, qu'on peut trouver là un peu en retrait.
C'est l'éditeur.
Plus sombre, oui. Voilà. Et il effectivement cherchait Nora Hamzaoui, qui est quand même une, une one-man show d'habitude, qui est
le one-show.
Et voilà, et puis je pense qu'il peut y avoir des bisexuels sur des lits en train de parler du Bergman, vous savez.
Elle en a pas vu, elle peut pas en parler.
Oui, mais si, mais elle peut dire qu'elle en a pas vu. C'est pas ça le scandale, je crois pas.
Non, mais juste l'entre-soi ne me dérange absolument pas. L'entre-soi, je suis dans l'entre-soi, je suis critique parisienne, etc. Dans les films, ça me dérange pas. Non, moi, je critique vraiment la nullité totale. Enfin, c'est un accident industriel, ce film, vraiment. Et je suis scandalisée par ce film.
Il y en a pas d'autres.
Je tiens vraiment à le dire. Je suis vraiment.
Le dernier mot, c'est Charlotte Garçon.
Comme le film parle de la numérisation du livre, ce qui est intéressant, c'est que en même temps, il se passe quelque chose de plus important et qui arrive au cinéma et qui va finir par rattraper Assayas, qui est la numérisation, enfin la miniaturisation du cinéma sur les petits écrans, dont on a déjà parlé ici avec Netflix, etc. Et on peut pas prendre ce film-là pour une allégorie de ça. Je pense qu'il y pense même pas.
Non, parce qu'il s'étonne que les gens lisent sur smartphone, mais maintenant les gens regardent des films sur smartphone.
C'est un film moqueur.
Bon, on s'arrête là pour Double Vie d'Olivier Assayas, parce que nous allons continuer cette dispute en parlant de Glace, de Mallet en son exil et du livre Pascal Augier, Ma sœur.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute cinéma en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, avec Glace de M. Night Shyamalan, un film qui a fait l'objet la semaine dernière ici même d'un coup de gueule de Lily Bloom, qui reprochait à ce film notamment une coloration politique douteuse. Je vous renvoie au podcast de la semaine dernière. Comme nous l'explique le dossier de presse, avec Glace, le réalisateur M. Night Shyamalan réunit les univers de deux de ses films les plus visionnaires, Incassable, 2000, Split, 2016, en un seul et même thriller explosif, inspiré par l'esprit des comics.
Elijah's changed over the years. He's given up. We keep him heavily sedated.
But there is a reason for that.
He's too smart for them.
You won't be lonely anymore.
The three of you think you have extraordinary gifts, like something out of a comic book. I've developed an effective treatment for this disorder. The light will force a different identity to take over.
Por favor, señora. I want my headphones back.
Step away from the controls now, little daughter.
You can't beat the beast!
So you're not gonna shake my hand and let me walk out of here?
Good for you. What do you want?
I am here to see if tales of the extraordinary being are true. May I meet the beast?
I'm Mary Reynolds.
I need your abilities to get us all out of here and show the world we exist. That sounds like the bad guys teaming up. A lot of people are going to die.
We are not meant to have this much power.
Finally, all of us together for the world to see what we are capable of.
You need to get out of here.
What have you done, Elijah?
Mais je ne peux pas vous cacher, je viens de faire ma première rencontre avec ce film, Glace, en écoutant sa bande-annonce, puisque je ne l'ai pas encore vu. Et que j'attends évidemment vos propos éclairés pour savoir si, en cette fin de semaine, il me faudra aller voir ce film de Shyamalan. C'est Muriel Jodé qui commence à nous en parler.
Alors, j'avais vu Split, et Incassable aussi, mais en voyant Split, je me disais, bon, c'est peut-être pas mon genre, et c'est pour ça que j'arrive pas à rentrer dans le film. Et dans Glace, il y a un peu ça au début, c'est-à-dire qu'on se dit... moi je suis totalement je ne supporte pas les films de super-héros, et là on est vraiment sur du film de super-héros critique, c'est-à-dire que, ou du film de super-héros d'auteur, et j'avoue que quelle que soit la déclinaison, c'est-à-dire film de super-héros post-moderne comme Deadpool et tout ça, il n'y a rien qui m'intéresse dans ce grand panier-là, parce qu'il y a toujours pour moi quelque chose de l'ordre d'un discours, d'une narration un peu indigente. Et Glace nous perd un peu pendant un long moment, on se dit on prend part à l'histoire, on est vraiment intéressé par une seule chose, c'est la mise en scène extrêmement virtuose de Shyamalan. Moi je pense qu'il y a une sorte de pureté comme ça de la mise en scène qui nous change en fait de l'épilepsie habituelle des films de super-héros, et on ne sait même pas encore qu'on est dans un film de super-héros. Moi, c'est ça qui m'a vraiment surprise. Et à partir du moment où on le sait, où on commence à savoir où on est, c'est-à-dire en fait vraiment dans Avengers, mais version Shyamalan, moi, je me suis complètement déconnectée du film, et ça m'a beaucoup moins intéressée parce qu'en fait, je constate un fossé entre cette mise en scène extrêmement adulte, extrêmement virtuose, extrêmement léchée, vraiment tous les plans, à chaque plan on se dit mais il sait il y a qu'un seul endroit où il doit mettre la caméra, il sait c'est lequel, c'est vraiment assez impressionnant. Donc mise en scène adulte, très mature, enfin vraiment impressionnante, et une histoire qui est très très bête, très mièvre.
C'est quoi l'histoire ?
Bah, en gros, ce que nous dit le film, c'est que on est tous des super-héros et que la société brime et, ou étouffe nos pouvoirs. C'est un peu ça l'idée. Et c'est pas étonnant que le film, je crois, et c'est un film Walt Disney, j'ai été étonnée d'apprendre ça, c'est qu'on a cette petite touche de mièvrerie qui joue contre la très grande maturité de la mise en scène. Et donc voilà, ça m'intéresse pas beaucoup comme objet, mais contrairement à Split, qui était beaucoup plus adulte, même narrativement, là j'ai vraiment eu l'impression d'un film Disney très bien mis en scène.
Bon, Corinne Rondeau, en vous écoutant, a l'air de ne pas avoir vu le même film que vous.
Non,
hein, Corinne.
Du tout. Non, c'est un film...
Glace.
Écoutez, c'est affligeant. Après les exposés de Assayas, le bavardage de Glace, c'est épouvantable. Enfin, moi, je me suis ennuyée. Donc, c'est comment je vais reprendre mes anciens films pour les mettre tous ensemble, mes super-héros, pour effectivement... Parce que vous voyez à peu près 1h40, le film fait 2h09, ouais. Pendant 1h40, pour avoir à la fin, ok, c'est ça là, c'était la parabole, l'allégorie, voilà, ce que vous avez dit. Donc en fait, une fois que vous l'avez dit, il n'y a plus rien à dire sur ce film. Moi je trouve que c'est une manière de vouloir dire comment on peut... Alors les super-héros, depuis longtemps, effectivement, on veut faire mourir les super-héros. Ils sont en perte de vitesse, voilà. Alors quand on le met sur le mode BD, puisque ça revient tout le temps, on vous explique finalement toutes les scènes qu'on voit sont déjà écrites, donc il y a un rapport entre l'action et une écriture, un scénario qui est préétabli, on va dire. Donc on se dit peut-être que le film de je sais pas, je vais pas
dire, madame.
Voilà, va inventer quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il va inventer ? Il va inventer juste ce qu'on fait en psychanalyse, parce que j'avais l'impression que c'était le type qui sortait de sa séance pour avoir et faire ce film avec ça. C'est-à-dire grosso modo, quand vous êtes vous avez atteint la limite de votre fantasme, enfin vous l'avez, ben vous pouvez faire avec de l'impuissance. Donc en fait, son scénario, ce n'est rien que ça. C'est-à-dire une fois que les super-héros on leur a enlevé les pouvoirs, qu'est-ce qui reste ? Ben d'annoncer à la terre entière qu'on est des super-héros. Ouah, ça c'est génial quoi. Donc si moi dépenser 12 balles pour aller voir ça, non.
Bon, Charlotte Garçon sur glace.
Parce que je suis super érote.
J'ai un peu toujours la même impression avec le cinéma de Shyamalan, c'est-à-dire j'y vais en espérant être nourrie, et puis effectivement je trouve quelqu'un qui me paraît tiraillé entre l'humilité de certains aspects de scénario, de traits d'humour, et là disons la modestie du début avec donc le père joué par le père de l'enfant de Incassable, qui a maintenant une vingtaine d'années, l'enfant joué toujours par Bruce Willis, et qui est réduit à être un responsable de magasin d'alarme de sécurité et qui donc travaille clandestinement, hein, c'est le début du film, pour aller chercher des gens à défendre puisque c'est un super-héros caché. Voilà, caché aux yeux de la société. Donc ce début, ce côté routinier du super-héros qui fait profil bas est plutôt, je trouve, romanesque, intéressant, et on a envie de s'attacher à ces personnages. Mais
c'est quand même Bruce Willis en plus. Quand même.
Voilà, et donc il y a un côté presque spielbergien, cette relation père-fils, attachant, et puis le film devient froid et devient très schématique, on ne voit plus que les ficelles de son scénario très vite, et je disais donc tiraillé entre cette modestie et une mégalomanie quand même, c'est-à-dire toujours, même quand on fait un petit film, il faut vérifier, parce qu'il me semble pas que le film soit un film de production Disney, mais plutôt un film auto-financé qui coûte seulement 20 millions de dollars et qui joue aussi, enfin, dans les interviews qu'il donne, etc., de cette pauvreté. Enfin, qui veut mettre en scène en tant qu'auteur, c'est un crédit à lui porter, ce serait un crédit à lui porter en tant qu'auteur à l'intérieur d'Hollywood, de pouvoir faire un film aussi avec aussi peu d'argent et malgré tout quand même des vedettes. Donc voilà, je trouve qu'il est tiraillé entre cette modestie et une espèce de folie des grands.
grandeur qu'ont ces personnages. Tous ces personnages, voilà.
C'est, d'ailleurs, c'est, le mot de mégalomanie apparaît dans le diagnostic, puisqu'ils sont dans une institution psychiatrique.
Voilà, puisqu'il y a un personnage de psychiatre qui dit, voilà, moi je suis spécialiste des gens qui se prennent pour des super-héros, donc vous êtes des cas pathologiques, tout simplement. Évidemment, on voit bien que le discours du film n'est pas cela, et d'aller contre ce scientisme qui aplatit l'imaginaire individualiste hypertrophié porté par Shyamalan. Donc, ce qu'il fait, c'est d'abord une sorte de déflation du genre en nous montrant des super-héros cachés, malades, cassés. Hein, le mot cassé revient. Glass, c'est quelqu'un c'est un personnage du film qui a une maladie des os de verre, donc il est littéralement cassé à l'intérieur. Mais l'autre personnage, celui joué par James McAvoy, le fameux Kevin de Split. Qui a un trouble dissociatif qui fait qu'il passe d'un personnage à un autre, lui aussi parle de cette communauté invisible, comme lui, de gens broyés. Donc voilà, tout le film est là-dessus, c'est-à-dire que les super-héros, au fond, sont broyés à l'intérieur. Mais le problème, c'est que dans presque tous les films de super-héros de ces 30 dernières années, cette déconstruction, elle a été faite et refaite 1000 fois. Et Spider-Man, c'est un ado en train de devenir ado. Cette espèce de traduction et de déconstruction du film de super-héros, elle a déjà eu lieu. C'est ça qui est étonnant. C'est un peu ça, la bêtise, théorique du film.
Corinne Rondeau ?
Non, mais la question... Enfin, il met juste à plat quelque chose d'assez banal. Le héros, c'est qui ? C'est toujours un type banal qui devient extraordinaire. C'est l'ordinaire qui devient extraordinaire. Et là, il inverse juste le truc pour dire à la fin, vous êtes tous extraordinaires. Enfin, je veux dire, si ce film... Enfin, moi, je sais pas, je vous pose naïvement la question à Charlotte et Muriel. Est-ce que ce film ne vous a pas lassé des explications continues et des répétitions sur broyé, cassé? Enfin, ça suffit, on sent... Je veux dire, on en a ras-le-bol. Je veux dire, c'est insupportable. Vraiment insupportable. Et cette psychiatre,
Vrai qu'on a l'impression d'être un peu dans la maison du docteur Edward de Hitchcock. C'est-à-dire que la psychanalyse ou la psychiatrie est abordée de façon très, très, très primaire. Et voilà, en gros.
Primaire. 2019, là, quand même.
Primaire. Ouais,
non, mais c'est passé 8 ans depuis la maison du docteur Edward.
C'est exactement ça. Le problème, après, on peut se dire, c'est des conventions, mais ça pose problème parce qu'on est quand même dans une institution psychiatrique qui est filmée de façon. J'aime beaucoup, il y a une pièce rose qui est assez, ça c'est très beau, c'est la meilleure idée du film, c'est une grande pièce rose où les trois super-héros sont réunis, et ce rose-là m'a vraiment frappée, et c'est un peu à l'image du film qui est très hybride, c'est-à-dire entre ce côté complètement neuneux et très primaire, et un côté expérimental, que ce soit dans les décors, dans la musique, magnifique, c'est une sorte de musique bruitiste extrêmement expérimentale, et qui m'a vraiment happée pendant tout le film, et surtout ce qui est expérimental et un peu exigeant dans le film, c'est que en fait, il y a une scène qui n'advient jamais, une scène de climax. Alors climax, c'est comment en français? Voilà.
Acmé.
Acmé. En haut d'un building qui n'a building, bon, gratte-ciel. On va y arriver.
C'est bien, vous prenez le pli, Muriel, au bout de je ne sais pas combien d'années.
Et cette scène en haut d'un gratte-ciel n'advient jamais. Donc on est vraiment dans une sorte de critique du blockbuster, au sens où... l'horreur. Au sens où la grande scène d'action n'arrive jamais et le film déjoue notre attente. Alors ça, voilà, ça c'est du film de super-héros critique, mais à côté de ça, on a la mièvrerie du discours idéologique, on a la mièvrerie de l'institution psychiatrique et de la manière dont il la traite. Donc le film est hybride et à la fois intéressant et très ennuyeux, je suis d'accord.
Pour moi, c'est pas du tout critique. C'est comment, en fait, je veux détourner le cliché. Bah, effectivement, Hitchcock, il l'avait déjà fait au milieu d'un champ de maïs avec Cary Grant dans
La
mort aux trousses. Bon, il faut, je veux dire... Mais on le voit à plein nez. Enfin, je veux dire, c'est...
On le voit à plein nez. Je note
mais
cette
oui,
expression-là.
Mais oui, mais...
qui nous arrive. On le voit à plein nez.
C'est par les yeux que je sens, vous voyez. C'est par les yeux que je sens.
Oui, mais
moi.
Je vois ça.
Pardon.
Non, mais vous êtes sensible à... Parce que Muriel Jodet a quand même commencé son propos par vanter l'extraordinaire travail de mise en scène de Shyamalan. Vous êtes sensible? J'avais pas l'impression. Corinne Rondeau?
Non, c'est pas possible.
Oh, Charles Garçon?
Si la virtuosité, il l'a mis dans. Pour moi, il l'a pas débouché la bouteille, hein.
Charlotte.
Alors, il y a une chose. Je trouve que l'hybridité, elle est aussi dans le fait que Split et Incassable, puisque c'est appelé trilogie, sont assez mal à boucher. C'est-à-dire qu'ils sont mal mélangés, on pourrait dire. Il y a le personnage de Split qui est donc un maboule total, qui passe d'une personnalité à l'autre et qui fait
pendant 15 minutes.
Voilà.
Ouais,
qui
c'est
fait pour
super.
Le coup, qui est là
continue.
En fait, qui est la partie méta discursive, si vous voulez, sur le jeu d'acteur. Donc, face caméra et délibérément face caméra. Alors, on parlait de mise en scène. Voilà, c'est, il est centré face caméra. Il nous regarde et il éructe entre chaque différente personnalité et il change. Alors, pas de forme parce qu'il n'y a pas d'effet visuel direct, mais il passe de voilà d'un jeune garçon de 9 ans qui zozote à une anglaise très chic, etc.
On a déjà vu ça.
Non et on a déjà vu ça, non seulement dans Split, mais ouais. Non, mais ce qui est lassant, c'est le propos métadiscursif de nous dire voilà, en fait, un acteur, il fait plein de prises. Un acteur,
c'est un héros.
Voilà. Et moi, c'est ce...
On est tous des
non,
héros.
Non, c'est pas une histoire là de super-héros. C'est l'histoire de dire, bah voilà, un acteur, il a cette virtuosité-là, et je vais vous le montrer comme si je montrais un making-of de film. C'est, ça, c'est vraiment insupportable. Pour moi, c'est l'aspect le plus hérissant du film.
Corinne, pour finir. Non.
Mais je peux tout dire, comme ça, vous n'irez pas le
non,
voir.
Non, mais je pense que je ne vais pas être héroïque au point non, d'aller
mais
voir ce
pompon
film.
Non, hein. Du pompon,
non,
quoi.
Non.
Attention.
Non, on s'arrête là. Pour Glass de M. Night Shyamalan.
J'ai un besoin absolu de passer une nuit blanche de temps en temps. C'est pas contre toi, je suis comme ça. Pas question ni pour toi ni pour un autre de venir ici. J'ai besoin d'être seule de temps en temps, vraiment seule.
C'est le moment du coup de cœur. De Charlotte Garçon, vous n'avez pas reconnu la voix de Pascal Augier, Corinne Rondeau ?
Oh oui !
Pascal Augier, Ma sœur, c'est un livre d'Emeraude Nicolas qui paraît aux éditions Filigrane, Charlotte.
Oui, quelle belle surprise. Et souvent, je me promène en lisant dans des endroits publics improbables. Et c'est un livre très beau qui a une tranche jaune, presque fluorescente. Et les gens vraiment s'arrêtent, enfin tournent comme ça la tête.
Quand vous
pour
dites
voir,
improbable, quel lieu par exemple ?
Toutes sortes de lieux de transport, voilà, qui font que les gens ont
chaud
vraiment envie de voir. Donc c'est un très beau livre, bon, j'y reviendrai. C'est une actrice, bien sûr, qui a eu une carrière très... très furtive, très, très resserrée, puisqu'elle est morte à 26 ans le 25 octobre 1984. Mais en fait, on apprend dans ce livre plusieurs choses. D'abord que sa carrière est plus fournie que ce qu'on pourrait croire, et notamment elle a joué aux Amandiers, au Théâtre des Amandiers, Catherine de Heilbronn sous la direction d'Éric Rohmer avec Pascal Grégory à 20 ans. Et c'est un livre donc de témoignages, d'articles aussi rassemblés sur elle par sa sœur, et de témoignages recueillis, dont celui d'Olivier Assayas qui livre un texte voilà, très soigné, et qui dit je me souviens de cette Catherine de Heilbronn aux Amandiers en disant les acteurs avaient l'air isolés sur cette grande scène, tout seul, etc., comme des enfants qui jouent au théâtre. Et finalement, c'est ce côté fragile de cette actrice, Pascal Augier, fragile physiquement, avec un teint de porcelaine, enfin très mince, etc., ce côté silhouette pré-raphaélite et cette voix qu'on entend, qui est ce filet de voix très haut perché, très, très reconnaissable, et on le comprend dans le livre, assez trompeur. Enfin, c'est qu'un des aspects de quelqu'un en fait de beaucoup plus aussi violent, solide aussi, déterminé malgré son jeune âge. Alors évidemment, on retient d'elle son rôle dans Les Nuits de la Pleine Lune d'Éric Rohmer, qui lui a valu un prix d'interprétation à Venise peu de temps avant sa mort. Mais en fait, elle a aussi, et notamment son deuxième rôle le plus important, c'est le rôle dans Le Pont du Nord où elle joue avec sa mère Bulle Augier, où c'est un personnage très intéressant, très anti-romérien en un sens, mais qui n'a pas d'identité. Enfin, qui est comme ça une espèce d'énergie qui arrive et de silhouette avec un casque de mobylette et une mobylette qu'elle avait en réalité, un blouson de cuir et qui s'appelle Baptiste. Donc il y a aussi un jeu sur l'identité sexuelle. Caroline Champetier, qui était à la caméra, se rappelle que comme elle était une femme machine dans le film. Donc la femme à la mobylette et la femme à la caméra. Voilà, donc le livre est intéressant parce que on commence en se disant ça va être quasiment une étude de la réception, puisqu'il y a des articles, y compris un article de notre collègue de dispute, Philippe Azoury, qui a écrit récemment un texte, un portrait. Et en fait, plus on avance dans le film, dans le livre, et plus on va vers autre chose qui serait peut-être... une sorte de témoignage historique sur la vie d'une jeune fille et d'une jeune femme, et j'allais dire à valeur historique générale, et pas uniquement, disons, la personne particulière qui était Pascal Augier, même s'il y a aussi ça, parce qu'on a énormément de documents, de photos, d'objets qu'elle avait, de cartes postales, de lettres qu'elle a écrites, et de photos, et je trouve ça extrêmement, pas seulement touchant, mais véritablement, voilà, historiquement important.
ce témoignage. Et puis, dernière chose, enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le livre, mais quelque chose qui s'est un peu perdu et qui serait l'actrice qui est en même temps directrice artistique d'un film. Ce qu'elle a fait dans Les Nuits de la Pleine Lune, elle portait avec elle... j'allais dire toute une génération qui est cette génération de jeunes qui allaient dans les boîtes, au Palace, rue du Faubourg-Montmartre à l'époque, les bains-douches, etc. Toute une vie nocturne, mais je dirais pas seulement. C'est-à-dire qu'elle traverse cette époque en étant à la fois en avance et dans un passé que sa coiffure en coque à la casque d'or rappelle. Et dans Les Nuits de la Pleine Lune, elle est donc aussi décoratrice du film. Elle a fait certaines des lampes du film et elle a une part importante dans les costumes. Donc je trouve assez rare dans l'histoire du cinéma français qu'un cinéaste partage le statut d'auteur finalement avec sa comédienne à travers le look du film, à travers les couleurs du film, le gris avec des touches de couleurs. Et ce film, enfin, si vous l'avez vu comme moi à sa sortie, moi-même j'étais enfant, il marque aussi par ça, par toute une époque qui est non seulement capturée mais vraiment créée par les gens qui y participent, dont Pascal Augier. Donc je recommande vraiment vivement ce livre.
Ce livre s'appelle Pascal Augier, ma sœur, d'Emeraude Nicolas. On le trouve aux éditions Filigrane.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Et le dernier film au sommaire de cette dispute cinéma, toujours en public au Bel Air, c'est Malais en son exil de Denis Gerbrandt. Il s'agit d'un documentaire construit sur 5 années que le réalisateur a passé à suivre de ci, de là, Malais, qui vit en France dans un foyer, qui travaille comme concierge pour plusieurs immeubles. Mais Malais est issu des Soninké au Mali, une ethnie qui vit selon des règles très strictes, incluant notamment la polygamie et l'excision. Ethnie qui est divisée entre hommes libres et esclaves. Je donne là quelques éléments, en tout cas pour vous dire que c'est un film qui propose une véritable expérience de l'altérité.
Et ta femme, tu l'avais au téléphone?
Oui, je l'avais au téléphone.
Tu lui téléphones tous les jours?
Pas tous les jours. Si j'ai de crédit, c'est de temps en temps. Si j'ai de crédit, je l'appelle. Je prends des nouvelles là-bas.
Ouais.
Et je l'informe de ma situation.
Ouais.
Voilà.
Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vue, ta femme?
Ça fait au moins 7 ans maintenant et je ne l'ai pas vue. Je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti d'abord.
Et quand tu l'appelles comme ça, ça te fait quel sentiment?
Ça me fait un sentiment de plaisir. Je suis très content de l'avoir, un téléphone comme ça.
Malais en son exil, film de Denis Gerbrandt et documentaire sorti sur les écrans mercredi dernier. C'est Corinne Rondeau. Comment ça nous parlait de ce film?
Trop gentil.
Mais c'est la loi de l'alternance.
Oui, je sais. Alors voilà ce Malais qui a un beau visage. Visage d'un homme de 52 ans. Qui est
52
beau.
Ans à la fin du
il
film.
Il est beau à la fin du film.
Donc plutôt ouais. 47 au début.
Oui, voilà. Il a des cheveux blanchis. Mais enfin, allez, voilà, la cinquantaine.
Ouais.
On l'entend, il répond à toutes les questions, il est patient, il est à l'écoute. En même temps, on apprend rapidement qu'il vit une schizophrénie puisqu'il est d'origine noble et qu'il a des esclaves au Mali et que par ailleurs, il joue l'esclave. Enfin, il a le rôle d'un esclave en sortant les poubelles,
en
faisant la femme de ménage, que ça ne le gêne pas d'avoir un travail de femme ici, ce qu'il ne ferait pas chez lui puisque un travail de femme ne peut pas se faire quand on est dans une tradition telle qu'elle est là-bas, c'est-à-dire... patriarcat plutôt très marqué, on va dire. Et puis, au cours de cette amitié, évidemment, avec ses gentilles phrases, ses gentilles questions, et en même temps, l'innocence de la question qui vienne sur du problématique par rapport à nos propres traditions, la polygamie et surtout l'excision, la réponse du réalisateur quant à l'excision, il dit « pour moi, c'est un crime ». Et l'autre lui dit, c'est une tradition. Alors ce qu'on apprend dans le film, c'est de se dire qu'effectivement la polygamie est corrélée à l'excision, puisque la question de l'excision, c'est enlever le plaisir des femmes, les contrôler. Il dit tout le temps qu'en fait, il faut toujours avoir quelqu'un qui te gouverne, qui te contrôle. et que par ailleurs, la polygamie, c'est avoir beaucoup d'enfants pour en fait être une richesse, c'est-à-dire cultiver beaucoup. Et il y a un autre Malien qui a un discours très juste qui dit, bah, à partir du moment où vous gagnez le même salaire, le fait de la polygamie n'aura plus du tout d'incidence. Ce sera la question de l'économie contre la richesse traditionnelle de la polygamie. Donc on peut souhaiter que la chute de la polygamie fasse aussi disparaître l'excision. Mais alors, au-delà de ces informations possibles qu'on peut retranscrire, comme je peux tenter de le faire, c'est un film qui me met très mal à l'aise par son innocence, parce que sa volonté bien pensante de l'altérité, au travers justement de problématiques comme celle-ci, qui sont toujours un peu gênantes, mais voilà, je suis pas là pour dire. C'est bien, c'est mal, puisque le film ne veut pas qu'on ait ce jugement, c'est bien, c'est mal. Mais comment, effectivement, puisqu'il y a une citation au début, hein, celui qui immigre, il immigre avec ses traditions, sa religion, ses modes de vie, etc. Et donc, la caméra, hein, elle se met dans la frontalité pour répondre à cette citation du départ. Alors bon, si vous voulez, qu'il y ait un écart entre des cultures et d'autres cultures, hein, c'est pas une nouveauté. D'être patient par rapport à ce qu'on entend, c'est quand même un peu dur. Et je me demande si... j'imagine que le réalisateur prend les risques de la critique qu'il va avoir, parce qu'à mon avis, il va se faire un petit peu nitrater pardon, sur justement cette amitié condescendante, on pourrait dire, puisque voilà, il est dans une situation de précarité, lui fait un film... Je vais donner à voir. Alors, moi, j'étais... Pardon.
Vous en toussez, du coup, Corinna.
Non, mais moi, je suis vraiment gênée par cette manière de vouloir prendre le parti pris d'un humanisme dont je pense quand même qu'il y a une limite à tout et que travailler un écart entre les cultures, c'est en soi, je trouve ça très stimulant, mais en faire ça pendant 1h40, je trouve ça d'une pauvreté assez... Que j'ai trouvé assez affligeante.
Charlotte Garçon, sur Malais en son exil.
J'ai pas du tout perçu ce que vous avez perçu. Je pense que le film va au-delà du portrait, qui serait déjà peut-être intéressant, parce que c'est quelqu'un dont on découvre la vie, le quotidien, justement, parce qu'il est concierge itinérant, donc ses horaires, etc. Déjà ça, le portrait me semblerait assez intéressant. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Il me semble qu'il est la démarche de Denis Gerbrandt. Il faut quand même un peu dire que c'est un documentariste assez expérimenté. Moi, je l'avais un peu perdu de vue. C'est-à-dire que son dernier film, semble-t-il, On a grévé, qui suivait des femmes de chambre, qui faisaient grève, des femmes d'hôtel,
d'hôtel, ouais.
Me semblait tellement proche des gens qu'il supportait qu'il y avait une espèce de militance comme ça dans laquelle se dissolvait la possibilité de faire du cinéma, enfin d'avoir une distance et de modéliser un peu quelque chose. Et là, j'ai eu l'impression de le retrouver. C'est un cinéaste, voilà, qui a fait notamment La vie est immense et pleine de dangers, mais d'autres films aussi il y a un certain temps, et films qui m'avaient frappé par leur qualité d'écoute. C'est vraiment quelqu'un qui écoute au sens vraiment auditif du terme. C'est quelqu'un presque comme un analyste qui savait faire advenir une parole. Et là, je retrouve quand même quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, le film crée un espace, disons, un espace d'échange qui devient une scène critique à un moment, qui devient une possibilité d'échange critique. Bien pensant, mal pensant, moi je ne pense pas qu'il défende ni le relativisme culturel, ni sa propre culture occidentale, effectivement. Donc il y a un entre-deux, mais quand même, il essaye dans le montage et dans le fait d'être longuement avec ce personnage dans des tâches quotidiennes comme dans une conversation sur le pays qu'on ne voit pas, je trouve qu'il fait à une micro-échelle, à l'échelle individuelle, ce que nous, société, n'arrivons pas à faire, c'est-à-dire avoir ce dialogue avec d'autres cultures qui peuvent nous gêner dans leurs traditions, dont les traditions nous semblent voilà, répréhensibles, immorales.
Bah, c'est pas qu'elles nous semblent, elles le sont. Voilà.
Mais pardon. Il me semble qu'au niveau de la société, on n'arrive pas à construire, à avoir un lieu où un lieu où ce débat ait lieu de manière régulière, fluide, etc. Donc on l'a un peu dans les médias, on l'a un peu ici et là, mais on voit bien que ça grince, justement, ça met mal à l'aise. Et ben lui, je trouve qu'il y arrive à un niveau individuel. Alors certes, c'est modeste, mais je vois pas en quoi ce serait répréhensible.
Le regard de Muriel Joudet sur le film de Denis Gerbrandt.
Oui, le mot modeste correspond très bien au film, c'est-à-dire que voilà, c'est pas du grand documentaire. Je pense que le film n'arrive pas, ne trouve pas sa forme, mais qui se place ailleurs. Ses ambitions sont ailleurs. Elles sont dans le document, tout simplement, dans le fait de documenter en fait une vie, c'est-à-dire voilà cette silhouette d'homme qui vide les poubelles. Et ben qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ben on va aller voir. C'est ça et c'est précieux. Et c'est urgent. Moi, les deux choses qui me plaisent et qui me touchent, même si j'ai mis du temps à m'intéresser au film, parce que j'attendais d'être touchée, je pense, c'est cette absence de commisération, c'est-à-dire qu'on sent deux personnes qui sont vraiment qui se parlent d'égal à égal, et qui ça donne en même temps, c'est-à-dire malgré cette absence de commisération, ça donne des scènes déchirantes où ce personnage nous explique que nous, Français, on ne sait pas ce que c'est de vivre très loin de sa femme, de ses enfants. Il n'a pas vu sa femme depuis 7 ans. Et là, on a une sorte de vertige. On
se et dit, de sa mère aussi.
Voilà, il est arraché. C'est un personnage arraché. C'est un personnage qui attend. Il est à Paris, il attend. Et cette attente est potentiellement infinie. C'est-à-dire qu'il... voilà, c'est l'homme de nulle part. Et il est là, à Paris, il vide nos poubelles. Et ça, c'est assez vertigineux. Ça, c'est très fort. Parce qu'en plus, ça arrive comme ça au détour d'un plan. Et la deuxième chose, c'est... alors, moi, je ne suis pas trop d'accord avec vous, Corinne, sur ces discussions sur... l'excision ou la bigamie, c'est que j'ai l'impression que ce qui m'a plu, c'est ce respect dans le désaccord. C'est-à-dire qu'on comprend que...
Mais non, mais la question, c'est au-delà de ça.
Oui, mais il lui dit bien, t'es un homme comme moi, tu as du sang qui coule dans tes veines et tout ça,
oui, mais
donc tu devrais comprendre que l'excision, c'est pas bien. Et j'avoue
il dit, d'abord, il dit pas ça.
Il me semble
et en plus, Mallet l'interrompt à chaque fois qu'il lui dit on a le même sang, on a le même sang.
Mais moi, ça me dérange pas cette conversation sur l'excision. Je sais que c'est immoral l'excision, que c'est grave, que c'est voilà, que c'est une atteinte au corps de la femme. Voilà. Mais cette discussion, bizarrement, quelqu'un défende l'excision parce qu'en fait, il est né avec ce truc-là. Il n'a jamais connu autre chose. Bizarrement, par ce dispositif.
Il n'a jamais commis d'autre chose, il vit en France depuis des années.
Oui, mais il est encore... C'est-à-dire qu'il y a un truc sur le fait qu'il ne connaît que la tradition. Et le Denis Gerbrandt, c'est ça ?
Gerbrandt, oui.
Gerbrandt lui dit, mais non, mais arrête de faire comme si tu ne vivais pas dans ce monde aujourd'hui. Et lui, il dit non, il défend la tradition. Évidemment, c'est totalement répréhensible ce qu'il défend, mais le documentaire nous fait comprendre que c'est un dialogue et qu'il y a une incompréhension qui va rester tout du long entre ces deux personnages, mais que pour autant, ils continueront à parler. Et moi, ça m'a pas choqué. Enfin,
ce qui est bizarre, c'est que vous parlez de dialogue tout à l'heure, Charles Garçon, parlait d'échange critique. Moi, alors dialogue, oui, mais alors échange critique, je ne le vois à aucun moment dans le film. Et du coup, ça m'amène à reconsidérer un film dont j'ai pas dit grand bien ici. C'était le film de Philippe Faucon, le dernier film de Philippe Faucon, dont le titre m'échappe tout de suite.
Amine,
voilà, où il me semble que Philippe Faucon dit beaucoup plus de ce que c'est que la condition de travailleur immigré loin de son pays, qui voit rarement les siens, en l'occurrence il y a un retour en Afrique dans les films de Faucon, et j'avais l'impression d'apprendre beaucoup plus de choses d'une vérité qui me touchait davantage qu'ici, où effectivement c'est pour conversation, et je trouve que Denis Guerre prend beaucoup de place dans le film, et ça m'a aussi beaucoup gêné, quelque chose quand même d'inductif, et je ne trouve pas du tout qu'il soit d'égal à égal dans ce film-là. Il y a quand même quelqu'un qui est en train de faire un film, et l'autre qui veut bien donner une parole un peu brute, très directe, qu'on reçoit sans filtre. Et voilà, moi je suis un peu gêné par ce qui n'est pas loin d'être une manipulation, quand moi je vois le film de la parole de cet homme. Et moi je suis très très gêné. Corinne Rondeau, très rapidement.
Non, mes camarades n'ont pas compris trop ce que je voulais dire. C'est que j'entends bien qu'ils veulent discuter et qu'il n'y a pas de jugement de la part du réalisateur. Je l'entends bien. Il y a tous ces paysages qui ne ramènent que de la mélancolie. Et on a l'impression qu'ils filment une situation de quelqu'un qui n'attend pas, Muriel, mais qui travaille tout le temps, quasiment, quand même. Sauf quand il est au foyer et qu'il discute.
C'est comme insupportable, c'est une attente.
Mais attendez, je veux dire, il faut arrêter. Je veux dire, si vous voulez être dans la tolérance ultime aussi, dire ce type, il est là où il est, on n'a pas envie d'avoir sa vie, on est bien d'accord, Muriel, mais à un moment donné, on est là face à un film où il y a une discussion et un dialogue. Mais toutes les deux, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est que cette scène où qui est assez belle d'ailleurs, il y a une cérémonie. C'est quoi cette cérémonie? On nous le dit dans le film? J'ai eu un doute, moi.
Alors, il y a plusieurs cérémonies. Il y a un mariage et puis il y a aussi une autre scène où il parle du serpent. Vous vous souvenez?
C'est peut-être de celle-là dont vous parlez.
Personne n'a vu le film.
Si, si. Non, je... enfin, moi, il explique, justement, ça, il explique. Ça. Alors, on n'a pas dit, mais il traduit aussi en off ce qui est dit. Moi, au contraire, je trouve qu'il a une part assez importante dans le film. Le fait qu'il y en ait un qui filme et un qui parle à la caméra, excusez-moi, à ce moment-là, on arrête de faire du documentaire.
Non, je trouve que Garbrandt prend trop de place par la parole. Mais bon, ouais. Parce qu'il induit beaucoup de choses.
Non, mais par les temps qui courent en un documentaire comme ça, quand on peut plus parler, même si on dialogue, ça finit par faire du communautarisme. Et moi, c'est ce que j'ai vu.
Bon, il faudrait discuter plus longtemps, mais le moment qui nous est imparti s'achève. On parlait de Malais en son exil, allez voir par vous-même. C'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire, ce film de Denis Garbrandt. Et nous concluons cette émission avec le jeu de la dispute à cette semaine. C'est notre stagiaire de troisième, Shaïra Benasser, qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse. Shaïra ?
La question était de combien de pays est composé Arctique ? Et la réponse était 8.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour Bérénice, mise en scène par Isabelle Lafont. Des places gagnées pour vendredi 25 janvier à 20h au Théâtre Gérard-Philippe Saint-Denis. Quelle est la question ?
La question est, quel empereur romain, père de Titus, s'oppose à sa liaison avec Bérénice.
Merci beaucoup, Shaïra, pour cette question. La réponse, elle est envoyée avec vos coordonnées postales par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter notre émission et vous abonner au podcast. Lundi, à 19h, une dispute dense. Danse D-A-N-S-E, hein. Elles sont toujours danse D-E-N-S-E. On sera avec Anna Sigalevitch, Marie Sorbier et Philippe Noisette. Nous parlerons de Saison sèche, de Fia Ménard, de Romances Incertos, de François Chéniaud et du Lac des Cygnes, tel que revu par Radouane El Medeb. Un coup de cœur de Marie Sorbier pour le festival Fait d'hiver.